Commençons, mes enfants, dit Guillaume à ma gauche ici, réalisateur du balado. Ben oui, on est de retour dans notre bon vieux studio 32, qui est pas mal plus petit que ce qu'on a vécu la semaine dernière, en compagnie du public très nombreux qui était venu voir notre 100e épisode, l'enregistrement de ce 100e épisode. Fanny parmi nous cette semaine. Salut Fanny.
Allô.
Fanny Tan, qu'on connaît bien, fidèle collaboratrice du balado. Vous pouvez lire son infolettre Glitch, très bonne infolettre pour vous maintenir à jour sur la cybersécurité et les phénomènes connexes. Salut Nicolas.
Bonjour.
T'as encore de la voix?
Oui, quand même.
Oui, parce qu'on enregistre au lendemain de cette victoire en cinquième match contre le Lightning de Tampa Bay. Tu y crois toujours?
Ben écoute, j'avais dit Canadien en 6, mais je veux pas trop m'emballer. C'est ça l'affaire. C'est un match à la fois.
Un match à la fois.
Voilà.
Parfait. C'est ce que disait aussi Nostradamus. Hey, on a failli avoir le 77 minutes la semaine dernière avec le centième épisode. C'est le chiffre mythique qu'on a choisi aléatoirement, mais on ne l'a toujours pas atteint. Ça ne sera peut-être pas cette semaine. Gardons le cap sur cet objectif.
Ça peut arriver parce qu'on n'a plus d'émission à tourner après maintenant.
C'est vrai.
Donc, on a tout le temps au monde. Fait que Guillaume, c'est parfait pour lui. Il y a tout le temps au monde pour monter aussi. Ouais. Tout le monde est content.
Non, mais très sincèrement, je serais vraiment content de rencontrer, de voir en chair et en os, de serrer la pince et d'échanger avec les personnes qui étaient présentes pour l'enregistrement du 100e épisode, savoir ce qu'ils font, qui ils sont, pourquoi ils nous regardent, qu'est-ce qui les intéresse, comment ils nous écoutent, à travers quelle plateforme. C'était vraiment une chance inouïe de se faire une espèce de focus group à nous pour comprendre qui sont les fidèles auditrices et auditeurs du balado.
Ouais, puis juste de rencontrer les gens, c'était vraiment touchant comme expérience, comme j'avais dit la semaine dernière. Juste de voir que les gens se déplacent pour venir ici, pour écouter le balado. C'est cool de voir ça concrètement. Ouais. Parce que tout ça, c'est comme ça n'existe pas.
C'est dans l'abstraction.
C'est des chiffres sur Internet.
Ben ouais.
On a vu vraiment les personnes, c'était quelque chose.
Exactement, puis les gens qui nous disent « Ah, mais oui, le samedi matin, vous faites partie de notre routine à tel moment de la routine ou de la journée. »
C'est un privilège.
Eh bien, tant mieux, mission accomplie pour ces personnes, propager la bonne nouvelle. Bravo, nous dit une personne ici, c'est un must pour moi chaque semaine sur YouTube. Let's go vers le millième! On verra bien. Selon mes calculs, c'est dans 22 ans. Je vous dirai pas quel âge je vais avoir dans 22 ans. Une chose est certaine, les hot takes, les prises chaudes, ça a bien marché. Il y en a eu quelques-unes qui nous ont fait rire et sourire. On a parti le bal avec un hot take, une prise chaude sur LinkedIn. Vous rappelez-vous?
Ah, c'est drôle que tu mentionnes ça. Je t'écoute.
Non, mais moi, je trouve ça drôle parce que par la suite, un autre collaborateur du balado, Jean-Philippe Descaries-Mathieu, a publié sur Facebook un message au sujet de LinkedIn. Salut Jean-Philippe, je vais me permettre de te citer, pas au complet, mais une partie. Il dit, je peux pas. Il a dit tout d'abord, bye bye LinkedIn. C'est ses adieux, en tout cas son au revoir à LinkedIn. Je peux pas croire que j'avais pas fait ça avant, dit-il. C'est plein de fausses offres spammy. C'est un outil de reconnaissance pour les attaques d'hameçonnage et d'ingénierie sociale, en plus d'être ridiculement détourné automatisé pour répondre aux plus récents délires du marché, donc l'IA. Il parle d'espionnage systématique qui a lieu sur cette plateforme. Cite le cas BrowserGate. Bref, pas beaucoup de raisons de rester sur cette plateforme. Il teste cette théorie de non-nécessité en désactivant son compte et il suggère à bien des gens de faire de même. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Je veux pas savoir votre opinion nécessairement, mais...
Ah, mais tu vas la savoir.
Vas-y, vas-y.
Ben en fait, je suis d'accord avec Jean-Philippe là, dans ses... qui s'insurge contre LinkedIn, mais moi, j'admets que je suis une grande fan de LinkedIn. C'est mon réseau social.
Non-ironiquement, imagine-toi donc.
Non-ironiquement, ouais.
OK. Pourquoi t'aimes ça?
Ben, j'ai eu beaucoup d'opportunités d'emploi sur LinkedIn. Je trouve que aussi j'aime bien que sur LinkedIn, t'es obligé d'avoir ton visage puis ton vrai nom. Fait que les gens se comportent, je trouve, un peu mieux sur LinkedIn que sur d'autres plateformes. Mm-hmm. Y a un peu plus de décence à mon avis, mais je comprends les gens qui disent que LinkedIn c'est très business, c'est très t'sais, beaucoup de fausse humilité puis des choses comme ça. Moi personnellement, c'est vraiment un réseau social que j'aime beaucoup.
Mais c'est ce que je disais à Fanny avant qu'on enregistre, c'est que, tu sais, je me suis jamais retrouvé à doomscroller sur LinkedIn le soir. Des fois, j'ai une notification, puis je défile pendant comme 30 secondes. Je fais, qu'est-ce que je fais? Puis je le ferme immédiatement. Mais il semblerait que Fanny, vraiment, elle doomscroll LinkedIn le soir. Là.
Ça m'arrive. J'ai des bons contacts sur LinkedIn qui publient des choses intéressantes. Mais oui, je suis au courant que c'est très loser de dire que
non, c'est pas loser. Mais bon.
J'ai pas dit ça. Là.
Non, mais moi, je le dis. Moi, je...
En tout cas, il y a beaucoup d'emojis. Il y a beaucoup de publications où on flaire la présence de l'IA aussi,
ah oui,
n'est-ce pas?
Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai.
On le voit, on reconnaît ça. Donc, d'autres commentaires sur l'épisode de la semaine dernière. On a parlé de Slopaganda, hein, dans un des sujets qu'on a abordé. Évidemment, des sujets suggestions de traduction. Pollu pagande, pourri pagande, ou encore... encore slopaganda, qui vient du latin languere, qui veut dire être faible, défaillant, abattu. Une autre personne qui nous dit « Surprenant qu'il n'y ait pas de slop sur la souveraineté du Québec. » Nicolas, il me semble qu'il y en a, non?
Bien, c'est difficile de le savoir, vraiment. Là, on n'a pas décelé d'opération inauthentique comme ça avec la souveraineté du Québec. Il y a un certain temps, j'avais parlé avec un modérateur de Air Québec sur Reddit qui me disait que le sub était assez imperméable à l'IA. Tout récemment, il m'avait envoyé un autre courriel pour me dire qu'il avait suspendu un compte. Mm. Qui visiblement publiait des messages traduits par intelligence artificielle sur le sub, mais c'était un cas isolé. D'ailleurs, une fois que j'ai vu le message, le compte avait déjà été supprimé et tout ça, fait que j'ai pas pu analyser le phénomène en plus grand détail. Là. Donc, on parle pas d'opérations à grande échelle en ce moment qui ont été décelées. Mais dans un avenir hypothétique de référendum, qui sait peut-être...
Ou d'élections provinciales.
Oui, c'est ça. Mais on va surveiller ça certainement de notre côté. Là. Mais c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas vu de campagne à grande échelle comme ça.
Ça reste à voir. On suivra ça de près. La gastronomie, évidemment, il y en a été question dans les commentaires. Moi, j'ai mangé, et dans les hot takes la semaine dernière, moi, j'ai mangé des croissants grillés au mini-four avec du fromage cottage. Alors, pas mal.
Ouais.
Moi, je dirais oui.
Non.
Bon, OK. Un autre qui nous dit, pour ma prise chaude, je crois qu'il faudrait aborder l'élément central de la poutine. Il me semble qu'on l'a fait. Faut-il être puriste, sauce, frites, fromage ou bien poutine et celle que l'on décide de décliner à partir de cette même base?
On l'a fait, mais ça avait été coupé au montage.
Ah oui, pour vrai?
En raison d'autres thèmes controversés.
Donc,
qui avaient
poutine,
été abordés.
Nicolas,
moi, je suis puriste, 100%.
Puriste, 100%. Mais puriste, c'est nécessairement 100%, toi?
Ah, moi, je suis tellement pas difficile que même si tu mets des cubes de mozzarella dans ma poutine, je
pour vrai,
manger.
Hein?
Ouais, ouais, je suis de même.
Moi, je suis comme ça aussi. Je suis ouvert à tout pour ce qui est de la poutine. La poutine en soi était comme une erreur de parcours quand ça a été créé, selon la légende. Là, c'est bon. Alors, pourquoi pas? T'sais, d'autres erreurs mèneront peut-être à des variations encore plus savoureuses, la poutine.
Mais je suis puriste libertarien. Genre, c'est comme si tu veux faire quelque chose, ça me dérange pas. Là. T'sais, je vais pas te critiquer, mais personnellement, je vais rester avec le classique.
Ouais, OK. On a fait le tour. On a fait le tour de notre introduction. Allons-y avec les manchettes aussi déferlantes complotistes en ce moment aux États-Unis. Évidemment, dans la foulée de la fusillade au gala des correspondants à Washington, on vous parlera aussi aujourd'hui de la répression du régime chinois qui ne connaît pas de frontières. Tous les moyens sont bons pour intimider les opposants et les journalistes qui s'intéressent à leur cause. Le tiers, j'ai bien dit le tiers, des sites web créés depuis 2022 porterait la griffe de l'IA. Alors, si la tendance se maintient, qu'adviendra-t-il du web tel qu'on le connaît aujourd'hui? La question se pose. La grogne s'installe chez les employés de Palantir, l'entreprise dirigée par le controversé, à défaut d'un autre épithète, Alex Karp. Réseaux sociaux et robots conversationnels bientôt interdits aux moins de 16 ans au Manitoba. D'autres provinces pourraient emboîter le pas, le fédéral aussi, d'autres pays aussi, mais comme on vous le dit souvent, appliquer efficacement ce type de loi, ben, c'est assez compliqué. C'est parti pour ce 101e épisode du Balado des décrypteurs. Alors, samedi soir dernier, je vous dirai pas ce que je faisais, où j'étais, mais quoi que ce soit, quand j'ai vu l'alerte de la fusillade au gala des correspondants, je suis tout de suite allé voir sur les réseaux sociaux. Même pas 20 minutes s'étaient écoulées depuis le moment des faits, et déjà on voyait cette déferlante de complotisme à laquelle je faisais référence dans les manchettes, ou en fait, je dirais, de complot fantasmé. Des deux côtés de l'échiquier politique aux États-Unis, plusieurs ont instinctivement crié au coup monté. On a donc vu à quel point le réflexe conspirationniste est plus aiguisé que jamais, qu'on soit démocrate ou républicain, Blue Anon ou MAGA, ça semble être pas mal la même chose, ou à peu près, dans des proportions qui peuvent varier. Évidemment, toute fusillade, par définition, est suivie d'un vide informationnel. C'est là où s'engouffre la désinformation. C'est un refrain bien connu, sauf qu'en 2026, en mai 2026, à une époque de profonde polarisation, de tribalisme politique, de méfiance aussi envers les institutions et les médias, ben, tout ça prend une toute autre ampleur. Voilà pour mon préambule. Revenons aux faits. Nicolas, tu as signé un article à ce sujet-là. Parlons de ces thèse.
Oui, puis c'est drôle, quelque chose qui n'était pas mentionné dans l'article, c'est le vide informationnel que tu mentionnes. Puis dans ce cas-ci, ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'il n'y a pas eu tant de vide que ça, dans le sens que oui, dans les moments après la fusillade, oui, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a un vide, les gens spéculent et tout ça, mais très rapidement, on a su beaucoup de choses sur le tireur, sur ses motivations, son manifeste est sorti, tu sais, on en connaissait quand même beaucoup sur les circonstances, et malgré tout, ces théories du complot-là, qui en bonne partie, là, tu sais, la plus courante, c'est de dire que c'était un coup monté, là, étaient partout et ont continué de proliférer, même après que ce vide-là a été comblé. Fait que ça aussi qui est particulier dans la situation, je trouve.
Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, comme tu le dis, la période de temps où on ne savait pas grand-chose était courte. Mais déjà à ce moment-là, il y avait des thèses qui pullulaient.
Je ne sais pas s'il y avait de la désinfo sur LinkedIn.
Non, mais... Je n'ai pas vu ça sur LinkedIn, non.
Mais pour vrai, sur tous les réseaux sociaux, c'était vraiment absolument partout, comme tu dis, Alexis. Puis c'est difficile à chiffrer. Là. Il y a NewsGuard qui a fait une analyse dans les 48 heures après les événements. Ils disent que des publications à l'effet que c'était un coup monté avaient généré plus de 80 millions de vues en moins de 2 jours, juste sur X. Là.
Wow.
Fait qu'on peut imaginer sur les autres plateformes aussi quelle proportion que ça a pris. Ça devait être assez massif. Là. Mm-hmm. Puis, comme tu le dis, c'était bipartisan. C'est sûr que dans le cadre de mon article, j'ai parlé avec un chercheur à la chaire Raoul Dandurand, Victor Bardoux-Bourgeois, qui observait tout ça. Il a dit ça reste un phénomène qui est plus courant peut-être chez les démocrates, ou chez certains partisans démocrates sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, il y a une frange républicaine qui déjà, depuis un certain temps, s'est mis à délaisser Trump, notamment en raison de ses politiques étrangères.
L'Iran, Epstein, Jésus aussi, le fameux post là, qui a choqué pas mal de monde.
Oui, entre autres. Fait que toutes ces choses-là font en sorte que, oui, il y a une frange d'ex-MAGA, disons, là, qui commençait, mais qui depuis un certain temps délaissait le président. Puis sont mises même, il y a Wired qui a fait un article là-dessus il y a une couple de semaines, qui se sont mis à se demander si l'attentat de Butler...
Il y a deux ans
en Pennsylvanie, où est-ce que tu sais, la fameuse photo du poing en l'air de Donald Trump était aussi un coup monté. Donc, c'est intéressant que peu après que ça commence à arriver, boum, une autre tentative d'assassinat ait lieu et que là, on voit ce phénomène-là redémarrer de plus belle. Fait que c'est peut-être pour ça que je pense que les proportions que ça a pris sont jamais vues, hein, en tout cas.
Puis quand tu dis que, si on veut, le message dominant, c'était un coup monté, dans quel objectif? C'est là où il y a des variations différentes là, dans les interprétations, dans les complots fantasmés.
Oui, bien c'est sûr que un des objectifs de base, c'est cette idée-là que...
De faire diversion.
Ouais, mais ou qu'il y a un capital de sympathie qui peut être allé chercher avec ça, puis il peut aller mousser ses appuis en vue des élections de mi-mandat. Mais très peu de temps après la fusillade, Trump a fait une conférence de presse. Le soir même, il a dit ce qui suit.
I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it.
Il veut sa salle de bal.
Il veut sa salle de bal, puis on le sait, cette salle de bal-là, qui serait à la Maison-Blanche, fait face à plusieurs obstacles juridiques en ce moment. Puis lui, il dit, bon, ça montre que c'est nécessaire, un projet à plusieurs centaines de millions de dollars, un projet qui semblerait aurait des vitres par balle. Puis à la suite de ça, il y a aussi plusieurs influenceurs de la sphère MAGA qui se sont mis à répéter le message sur les réseaux sociaux. Ça semblait, selon certains, coordonné. Et donc ça aussi, ça a alimenté des théories du complot comme quoi tout ça ne serait qu'une mise en scène pour que la salle de bal voit le jour, là.
Tantôt, vous parliez du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de vide informationnel. Puis effectivement, les informations sont arrivées quand même assez rapidement sur l'identité du tireur et tout ça. Mais il y a quand même certaines choses, moi, que j'ai observées qui n'ont définitivement pas aidé là, à, disons, faire de la clarté, faire de la lumière sur cet événement-là. Un truc que j'ai vu beaucoup en ligne, c'est les gens qui partageaient que c'était la première fois que Trump assistait au dîner des correspondants de la Maison-Blanche en tant que président des États-Unis. C'est un événement qui avait, on pourrait dire, boycotté dans les dernières années, entre autres, au moins en partie à cause de sa relation un peu difficile, disons, avec les médias. qui font partie des invités de ce dîner-là. Il y a aussi la journaliste de CNN, Caitlin Collins, qui avait tweeté quelques instants après les coups de feu que le tireur avait été abattu par les agents des services secrets, ce qui n'était pas le cas. Il a été arrêté, ce tireur-là, il est encore vivant. Puis, il y a aussi un événement qui a été beaucoup rapporté, qui a beaucoup circulé, c'était une entrevue que Caroline Leavitt, oui, la porte-parole de la Maison-Blanche, a fait à Fox News, où ce qu'elle disait « There will be some shots fired tonight in the room », où il y aura des coups de feu ce soir dans la salle, mm-hmm, qui est une expression pour dire, tu sais, que pour parler d'attaque verbale, en fait. Ben oui. Mais les gens ont pris ça comme un signe qu'elle savait qu'est-ce qui allait se passer, puis elle parlait de coups de feu littéral, ce qui n'était pas...
Ce qui n'était pas le cas du tout.
Ce qu'elle voulait probablement dire, mais en fait, bon, c'est ce que les gens disent en ligne. Les gens ont fait des liens avec qu'est-ce qu'elle a dit puis l'événement qui s'est passé
juste
après.
Faire des liens.
Ben parce que le concept de ça, c'est justement que le président va faire des discours pour comme roaster en bon français les médias, tu sais, mm-hmm, comment est-ce qu'on pourrait dire, pour se moquer des médias, mais tu sais, c'est une tradition, ben là, oui, dans le sens que c'est pas à prendre au sérieux. Quoique, si Trump l'avait fait, qui sait à quel point ça aurait été... on sait pas ça aurait été quoi le ton, il a pas pu faire le discours, malheureusement.
On le saura pas, en tout cas, pour un petit bout de temps, ouais.
C'est ça, je trouvais ça... Les proportions que cette histoire-là de shots fired a pris, c'est un peu absurde, là, quand c'est une expression tellement courante.
C'est vrai
là
que c'est très courant comme expression... Donc, ouais, c'est particulier. Mais c'est ça, c'est l'idée aussi de faire des liens. Je pense beaucoup au côté psychologique là, de la, mm-hmm, pensée conspirationniste. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, c'est pas nouveau, mais je suis allée regarder une étude de 2017 de chercheurs néerlandais et britanniques en psychologie qui en parlent assez bien. Et c'est une étude où ce qui aborde les processus cognitifs, donc qui sous-tendent les croyances irrationnelles. Et dans l'étude, ce qu'ils disent, c'est que les pensées, les croyances irrationnelles, c'est pas juste une poignée d'individus qui vivent ça, qui entretiennent ces croyances-là. C'est très répandu là, dans la population, ce qu'ils appellent la population d'adultes mentalement en santé. Mm-hmm. Puis c'est en partie causé à cause d'un phénomène cognitif qui s'appelle la perception de motifs illusoires. Mm-hmm. C'est le fait que quand un être humain est mis devant un regroupement de signaux aléatoires, ben, le cerveau humain a tendance à voir des patterns ou des schémas à l'intérieur de ces signaux-là, mm-hmm, alors qu'ils sont complètement aléatoires. Puis c'est une tendance très humaine de faire ça. Et c'est ça un peu qui sous-tend toutes ces théories du complot, où les gens vont prendre différents éléments qui ne sont pas nécessairement reliés les uns aux autres, mais qui, pour eux, vont faire du sens. C'est comme une manière de voir de l'ordre dans le désordre.
Ouais, ouais.
Et je pense qu'il y a beaucoup de théories du complot, en fait, que tu peux voir que les gens prennent plein d'événements et là se disent « Ah, il y a ça qui match avec ça, qui fonctionne avec ci », et se font des idées des fois assez abracadabrantes, mais qui font du sens quand même quand tu les regardes. Tu sais, c'est une sorte de explication alternative.
Oui, qui ont du sens et qui correspondent souvent aussi à leurs opinions. Mm-hmm. Le bon vieux biais de confirmation qui est en pleine action dans ce genre de situation-là, ils ne cherchent pas nécessairement des informations valides, mais plutôt des confirmations de leurs biais, de leurs opinions.
Mais je trouve ça inquiétant vraiment de voir le climat politique aux États-Unis aujourd'hui, puis de voir à quel point il y a une adhésion à ça du côté démocrate. T'sais, il y a quelques exemples, il y a notamment le PDG de Media Matters.
Ah oui?
Angelo Carusone qui a partagé une vidéo, là. Ça, c'est un autre élément qui a beaucoup attiré l'attention. Donc, c'est une vidéo d'une journaliste de Fox News qui est sur les lieux après la fusillade. Est en train de raconter en ondes que...
Au téléphone, que
le mari de Caroline Leavitt, avant l'événement, lui a dit qu'elle devait faire attention à elle. Puis sa connexion coupe, tu sais.
Ouais,
comme c'est souvent le cas.
C'est un indice.
Fait que là, il y a plein de gens qui ont commencé à dire « Ah, ben elle a été censurée par Fox. » C'était juste une erreur de connexion, juste un problème de connexion. Elle l'a dit par la suite. Mais donc, le PDG de Media Matters, Angelo Carusone, sur son compte Blue Sky, partage la vidéo et dit « Je veux pas tomber dans les théories du complot, mais c'est bizarre. » Puis Media Matters, là, c'est une ONG, t'sais, résolument démocrate, dont le mandat, c'est de surveiller notamment la désinfo véhiculée par les conservateurs aux États-Unis.
Hein?
Fait que là, t'as des gens que leur vocation, c'est un peu, ou leur posture de supériorité morale pendant longtemps, là, c'était de faire « Nous, là, on est anti-complot, anti-complotiste, tout ça. » Puis là, le voilà en train de partager cette vidéo-là, puis en train de dire « C'est vraiment bizarre, en tout cas. » Tu sais, fait que c'est quand même... C'est quand même fou, là, ce qui se passe là-bas. Là.
C'est fou. Dans le camp démocrate, puis là, il y a cette donnée, cette analyse du Washington Post qui nous démontre à quel point c'est prévalent. Selon leur analyse qui portait sur les réseaux sociaux et les balados, environ Un cinquième des influenceurs et politiciens progressistes de gauche démocrate ont publié des messages concernant la fusillade avec un langage ou un discours conspirationniste. On parle quand même de 20 % C'est donc une démonstration à quel point tout ça n'a plus de frontières idéologiques ou partisanes. Peu surprenant dans le climat actuel. Puis il faut dire que le président lui-même aussi, jusqu'à quel point il faut s'en surprendre hier. Donc, mercredi, puisqu'on enregistre le jeudi, il publiait un énième message clairement émanant de la frange QAnon. On va peut-être le voir à l'écran pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, Q, The Storm is Coming, quelque chose comme ça, la tempête s'en vient. Alors, lui-même, depuis des années, alimente, donne de l'oxygène aux réflexes conspirationnistes de certains. Faut-il s'en surprendre que ce genre de choses surviennent? Le plus triste dans tout ça, c'est que ça s'accompagne de gestes politiques violents. Puis je pense que la leçon pour nous tous, là, qu'on soit américain ou pas, c'est que faut prendre conscience du fait que bien souvent, établir les faits prend du temps. Il faut qu'on ait de la patience. On est dans une société où tout va vite. Il y a comme une injonction de la rapidité, de la vitesse, de l'exécution tout le temps. Il faut comprendre vite puis nommer vite les choses. Wow, calmons-nous un petit peu, là. Et puis je pense que juste le fait de prendre un peu plus notre temps avant de se faire une tête sur un événement peut aider, contribuer, si on veut atténuer ce réflexe conspirationniste qui malheureusement s'infiltre de plus en plus. Voilà, là-dessus, on va mettre le cap sur la Chine, chers amis, parce que la Chine et le régime chinois ne reculent devant rien. Pour faire taire les voix dissidentes, pour déconstruire les discours qui vont à l'encontre des intérêts de l'État chinois, un État qui est obsédé par ce qu'on appelle les cinq poisons. Quels sont-ils? Les mouvements indépendantistes taïwanais, du Tibet ou encore du Xinjiang, où résident ou vivent depuis des siècles et des siècles les Ouïghours. Il y a aussi le mouvement spirituel Falun Gong et évidemment le mouvement pro-démocratie en Chine. Ça, c'est les grandes obsessions et les grandes menaces du régime chinois, menaces à la sécurité de l'État, disent-ils. Et pour donc s'attaquer à tout ce qui pourrait favoriser le message porté par ces entités et par ces personnes, le régime n'hésite pas à déployer ses antennes, déployer son très long bras un peu partout à l'extérieur des frontières physiques de la Chine continentale. La diaspora et les communautés de la diaspora et les journalistes qui font écho à ces doléances-là, en savent quelque chose. Mais d'abord et avant tout, ici même au Canada, il y a eu des exemples probants de ce type de phénomène.
Oui, en effet, c'est une enquête en fait du Citizen Lab de l'Université de Toronto en partenariat avec le Consortium international des journalistes d'investigation qui ont ouvert une enquête, qui enquête depuis longtemps sur la répression transnationale, mais le Citizen Lab avec le Consortium international des journalistes d'investigation, ont lancé une enquête sur un groupe de menaces, un groupe d'acteurs malveillants liés à la Chine qu'ils ont dénommé Glitter Carp, comme le poisson. Et ils ont lancé cette enquête quand ils ont reçu un appel d'un activiste ouïghour canadien qui s'appelle Mehmet Toti. Et Mehmet Toti, il y a un an, donc en avril 2025, a reçu un message sur WhatsApp qu'il croyait provenir d'un directeur cinématographique ouïghour bien connu de la communauté ouïghour au Canada. Et ce supposé directeur-là, il existe, là, mais la personne se faisait passer pour le directeur sur WhatsApp, a demandé à M. Toti son adresse courriel personnelle pour lui faire parvenir un courriel de manière plus formelle, ce à quoi M. Toti a accepté. Et une fois que M. Toti a reçu le courriel, il a tout de suite réalisé que l'adresse courriel de l'émetteur ne correspondait pas au nom du cinéaste. Donc, premier drapeau rouge. Et le message demandait à M. Toti de visionner en avant-première un documentaire probablement sur la cause ouïghour. Et M. Toti a vérifié sur Google l'existence réelle indiquée dans le nom de domaine de l'hyperlien. Dans le fond, il a vérifié que le nom de la compagnie de distribution de films qui était dans l'hyperlien existait réellement. Il a réalisé que oui, mais quand il a cliqué sur l'hyperlien, ça ne l'amenait pas vers un site web de site de distribution de films indépendants, ça l'amenait vers une page web qui lui demandait son identifiant et son mot de passe Google. Là, il a fait « OK, c'est un peu bizarre ». Il a donc décidé de fermer la page puis de passer à autre
chose. Deuxième drapeau rouge.
Exactement, quand même pas pire drapeau rouge en plus. Là. Puis à la suite de ça, M. Toti a reçu un autre courriel qui se faisait passer pour une alerte de sécurité de Google qui affirmait qu'une connexion suspecte avait été détectée sur son compte. Puis en ouvrant le courriel, M. Toti a été surpris de constater que le message était rédigé en caractère chinois traditionnel que M. Toti ne lit pas et n'utilise pas. Donc là, il a fait... Ça, c'est vraiment okay. bizarre.
Troisième
ça,
prise, louche. Troisième drapeau rouge.
Exactement. Et donc, il a décidé de contacter le Citizen Lab qui travaille justement pour venir en aide aux victimes de la répression transnationale. Et c'est là que l'enquête a été lancée. Et cette enquête-là a permis de révéler les agissements donc, de Glitter Corp et le premier groupe qui s'attaque, en fait, qui essaie d'avoir les identifiants et les mots de passe de leurs victimes qui sont des donc quatre de ces cinq poisons-là, là, de, mm-hmm. selon le Parti communiste chinois. Et il y a un deuxième groupe aussi qu'ils ont appelé Sequin Corp, qui, lui, va plus viser des journalistes, notamment du Consortium international de journalistes d'enquête, qui travaillent justement sur des cas qui sont liés à la Chine, sur des sujets d'intérêt pour la Chine. Et donc, c'est vraiment une... Ça représente vraiment une grosse attaque d'ingénierie sociale. Donc,
ouais,
ce qu'on
ça.
Appelle du harponnage ou du hameçonnage, donc du phishing ou du spear phishing. C'est tout plein de sortes de tactiques, comme on a vu avec M. Totti, où ce qu'on essaie de convaincre les gens de nous donner leurs identifiants et leurs mots de passe pour ensuite continuer à faire des attaques, perpétrer encore plus d'attaques contre ces communautés-là.
Oui, puis l'enquête en question là, donne plusieurs exemples semblables d'autres activistes outre-mer. Mais c'est intéressant que ça a commencé avec des Canadiens. Justement, on dit aussi qu'il y a des journalistes qui couvrent ce dossier-là de répression transnationale qui sont visés par des tactiques semblables. Donc, ça ratisse assez large. Puis ce qui est intéressant dans le rapport aussi, c'est qu'ils disent que c'est très sophistiqué comme opération, puis que si on regarde la manière dont la Chine opère la répression transnationale, ça date pas d'hier, là, en fait. C'est depuis même les années 90, la Chine mène des opérations comme ça pour aller faire taire ses opposants à l'étranger, aller les intimider. Parfois, ça implique même de l'intimidation physique, notamment. Oui. Là. Mais ce qu'explique l'enquête du Citizen Lab, c'est qu'au début, c'était plus des groupes comme de activistes, des petits groupuscules de hackers. On dit dans le texte que c'est des hackers patriotes dans les années 90, alors que par la suite, ça s'est vraiment intensifié, surtout sous l'administration de Xi Jinping, à partir de 2012. Puis maintenant, c'est comme des partenariats avec des entreprises privées en Chine. Fait que c'est super sophistiqué, c'est des opérations super importantes. Puis, quand le comité sur l'ingérence étrangère a fait ses travaux au Canada il y a quelques années, il disait qu'un des plus grands enjeux d'ingérence étrangère au Canada, c'était ça, c'était la répression transnationale. Fait que souvent, quand on parle d'ingérence étrangère dans les médias, on a cette idée de comme la Russie en 2016 aux États-Unis, tu sais.
C'est le prototype, ouais.
Alors que dans les faits, si on regarde les gestes d'ingérence étrangère qui ont une incidence importante au Canada, là, c'est vraiment ça qui est comme un des plus gros problèmes qu'on a. C'est pas nécessairement des fausses nouvelles. Il y en a, c'est sûr. Il y a des campagnes de fausses nouvelles, ça existe. Il y en a eu à la dernière élection sur WhatsApp, notamment, là, mais c'était un peu nébuleux quel effet que ça a eu. Alors que ça, c'est un effet concret. Il y a des gens qui ont peur pour leur vie, des gens qui sont intimidés, des gens qui sont enlevés. Et la Chine est très, très, très intense avec ça depuis très longtemps. Là.
Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Je pense au Citizen Lab, évidemment, mais aussi le Montreal Institute for Global Security, ici à Montréal, qui sont faites sur les impacts psychologiques de ces campagnes-là sur les victimes. Puis, évidemment, une des raisons pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de ces opérations-là dans les médias, c'est parce que bien, les victimes ont peur d'en parler aux médias. Évidemment, ils ne veulent pas attirer nécessairement l'attention encore plus du gouvernement chinois ou d'autres gouvernements. Il n'y a pas juste le gouvernement chinois qui fait ça au Canada. Puis, c'est intéressant aussi, récemment, le Citizen Lab a publié un rapport sur la répression transnationale genrée. Donc, à quel point est-ce que ça vise différemment les femmes que les hommes? Ça a souvent des conséquences disproportionnées pour les femmes qui vont souvent être attaquées sur leur sexualité, par exemple. C'est arrivé justement...
Oui, une activiste ici, d'origine chinoise au Canada.
Oui, exactement, qui a été visée par des hypertrucages à caractère sexuel non consenti. Et donc, c'est vraiment une gamme de conséquences sur la vie professionnelle, sur la vie intime, sur la vie personnelle pour ces personnes-là qui sont visées par ces opérations-là. Et c'est un gros phénomène qui est vraiment comme très caché, mais qui impacte beaucoup de gens là, au Canada.
C'est ça. Puis j'ai dit tantôt WhatsApp, je me suis trompé, je voulais dire
WeChat. C'est ça.
WeChat qui est une plateforme, c'est une plateforme universelle, disons. Oui. C'est pas juste la messagerie, on peut payer avec ça et tout. Puis quand on avait fait un reportage là-dessus, je pense que c'était l'an dernier,
absolument,
sur WeChat, tu te rends compte aussi à quel point c'est central dans la communauté chinoise au Canada, mais partout dans le monde. Puis c'est peut-être une des autres raisons pourquoi c'est un angle mort, c'est que c'est... tout ça se passe souvent dans des communautés qui... Mm-hmm. Il y a peut-être des barrières linguistiques, surtout pour les plus vieilles générations qui sont ici. Les médias n'ont pas beaucoup de journalistes d'origine chinoise, par exemple, qui peuvent aller dans ces communautés-là puis comprendre ce qui se passe. Donc, c'est comme un angle mort, mm-hmm. je pense, de la manière dont les médias opèrent aussi, qui font en sorte qu'on entend peu ou moins parler que d'autres choses.
Là, oui, t'sais. Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai que pour certaines campagnes, ils ne vont pas nécessairement essayer de salir la réputation des activistes taïwanais ou hongkongais aux yeux des Canadiens.
C'est ça.
Ils vont vraiment le faire aux yeux des communautés
Exactement.
Chinoises pour descendre, pour nuire à la crédibilité au sein des communautés. Donc, ouais, c'est un point intéressant, ça aussi.
Oui, c'est leur objectif premier. Puis, comme vous le disiez tout à l'heure, désormais, l'État chinois fait appel à des tiers parties, à des entreprises privées, qui font en sorte qu'ils coupent dans les coûts beaucoup. Ça coûte mm-hmm. pas cher. Ça leur coûte pas cher d'opérer ce genre d'opération, de procéder à ce genre d'opération-là. Et ça leur permet une certaine distance en termes de responsabilité. Ah, ben, il y a une entreprise qui le fait. Il y a plus si on veut, de distance entre l'État chinois et les actions perpétrées. Mais félicitations au Citizen Lab, quand même. C'est une grosse enquête, très étoffée et très intéressante.
Et maintenant que tu parles de la perspective de Pékin, là, eux disent par rapport à tout ça que c'est pas vrai, qu'ils mènent pas de campagne de répression transnationale, puis que c'est vraiment du salissage motivé politiquement là, par l'Occident. Fait que voilà leur point de vue.
Voilà leur point de vue, alors que les luttes de ces mouvements pro-démocratie et pro-indépendance des régions évoquées se poursuit au risque de leur vie, que ce soit en Chine ou un peu partout dans le monde. Parlons du web qui se transforme. Évidemment, qui se transforme de façon accélérée depuis 2022, parce que des chercheurs ont donc découvert, comme je l'évoquais tantôt, que le tiers des sites créés ou conçus depuis 2022 ont été générés par l'IA. Quand même, le tiers, et depuis 2022, c'est pas anodin. C'est depuis l'avènement, évidemment, de ChatGPT, vous l'aurez deviné. C'est une statistique qui amène encore une fois de l'eau au moulin aux adeptes de la dead Internet Theory, la théorie de l'Internet mort, un web, bref, sans apport humain, où des entités automatisées, des robots se parlent entre eux. C'est un peu ça l'idée. On l'a évoqué déjà au balado par le passé. Mais parlons justement de cette découverte et de ces chercheurs.
Oui, c'est justement, les chercheurs se sont inspirés directement de cette théorie-là, de la Dead Internet Theory, pour essayer de comprendre l'impact que les agents conversationnels d'IA ont sur le façonnement de l'Internet qu'on mm-hmm. visite aujourd'hui. Et pour faire ça, ils ont prélevé des échantillons de sites web sur une période de 33 mois entre août 2022 et mai 2025 et ils ont analysé les échantillons avec 4 détecteurs d'IA. Mm-hmm. Et il y a eu plusieurs conclusions à l'étude, mais une conclusion qui était la plus surprenante selon l'un des chercheurs, c'est qu'elle vient infirmer l'hypothèse selon laquelle il y aurait une dégradation de la vérité, disons, sur Internet.
OK, c'est pas vrai.
Ouais, selon leur étude, parce que ce que le chercheur a dit, c'est qu'il y a pas quand même des nuances. Il dit qu'on n'a pas remarqué qu'il y avait une augmentation des contenus fallacieux, mm-hmm. ce que je trouve moi-même assez étonnant.
Oui.
Mais il dit qu'il se pourrait tout de même que l'IA augmente discrètement le volume des affirmations invérifiables, celles qui ne peuvent être contrôlées à l'aide des outils et des infrastructures de vérification des faits existants.
Ah bon?
Il dit aussi, ou bien il se peut simplement qu'Internet n'ait jamais été au départ un espace particulièrement respectueux de la vérité.
Oh, ouais. Note d'honnêteté, raison.
Ouais, on va le mentionner. Il disait ça dans une entrevue avec 404 Media. Ça fait un bout de temps qu'on ne les a pas mentionnés de nom. Fait que je pense que c'est important de les plugger. Donc oui, ça, c'est une des conclusions, mais ils ont vraiment voulu répondre à 6 questions avec cette étude-là. On peut peut-être y aller en rafale, là, si ça vous va. Donc, la première, est-ce que cette prolifération de l'IA mène à une diminution de la multiplicité des points de vue sur Internet? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça crée davantage de désinfos? On l'a dit, non. Est-ce que le style devient plus aseptisé et jovial? Oui. Mm-hmm. Donc ça, c'est assez... Tu sais, on voit un ton plus jovialiste, plus LinkedIn peut-être, qui prend d'assaut l'Internet. Est-ce que l'IA échoue à citer ses sources? Non. Est-ce que il y a des suites de mots à faible densité sémantique, c'est-à-dire est-ce que...
Faible densité sémantique, ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire, est-ce qu'il y a de moins en moins de substance par rapport à la longueur des textes?
Okay.
Parce qu'on sait que l'IA, souvent, ça déblatère pendant 1000 ans pour arriver à un
des
point.
Des phrases qui ne veulent rien dire. Là.
Ça aussi, surprenamment, la réponse, c'est non.
Ah oui, non.
Et finalement, est-ce que ça a imposé une monoculture de l'écrit où les voix uniques disparaissent au profit d'un style générique et uniforme? Oui. Donc, c'est un portrait assez nuancé de l'impact qu'a eu l'IA générative sur Internet, mais je pense, honnêtement, la donnée la plus intéressante là-dedans, c'est vraiment que le tiers du web est maintenant généré par IA.
Oui, je peux même pas imaginer, si on dit que le tiers des sites web est généré par IA, le nombre de comptes sur les réseaux sociaux qui sont générés par IA. Je serais vraiment curieuse de savoir genre la proportion organique versus IA générée par l'IA, parce que ça doit être encore plus que le tiers, j'imagine. Je sais pas.
Je sais pas. On peut pas compter sur Elon Musk là-dessus, là, parce qu'il nous a montré que les robots, les comptes robotisés se sont plutôt multipliés sur sa plateforme.
L'étude comportait aussi un aspect sondage. Donc, il y a plusieurs données qui sont allées chercher sur les Américains et sur leurs attitudes face à l'IA. Je vous en donne peut-être une qui est intéressante par rapport à l'usage de l'IA en tant que tel. Donc, c'est seulement 12,7% des personnes sondées qui ne s'en servent jamais. C'est quand même très faible comme proportion. 37% s'en servent au quotidien. Et globalement, on parle de 30% qui ont un point de vue négatif de l'IA et 44% qui ont un point de vue positif. Donc, des nouvelles données pour mieux comprendre comment les gens perçoivent cette merveilleuse technologie révolutionnaire.
Entre guillemets, n'est-ce pas, Nicolas?
La question se pose.
On se pose aussi pas mal de questions sur Alex Karp. Ça, c'est une... certains s'en posent, en tout cas, des questions sur cet homme. Évidemment, à la faveur de toutes ces déclarations un peu bizarroïdes qu'il fait. Mais au-delà de cet homme, parlons de son entreprise, Palantir, qu'il a cofondée avec Peter Thiel il y a ça quelques années. Une entreprise qui est très présente, qui a toutes sortes de clients, ICE aux États-Unis, des armées un peu partout dans le monde. Fait beaucoup dans la surveillance de masse, entre autres choses, aurait aussi été utilisé, utile pendant cette guerre en Iran. Mais voilà pour ça, ce dont on veut aussi parler avec tout ce que je viens de décliner, c'est de la grogne qui s'installe au sein des rangs de cette entreprise. De plus en plus, ça percole.
Oui, c'est une enquête qui nous provient de Wired. Puis c'est ça qui est intéressant parce que, comme tu le dis, on a une idée de ce que Palantir fait, mais pas tant que ça. T'sais, on sait qu'ils fournissent des outils pour analyser des données en masse, que ça sert à la surveillance, que ça sert à la guerre, mais c'est toujours un peu nébuleux. C'est quoi exactement l'implication de cette entreprise dans les actions que mènent des États comme ça? Puis ce que Wired nous dit finalement, c'est que les employés commencent à se poser des questions, à exprimer des inquiétudes à l'interne. L'entreprise a été fondée après les attentats du 11 septembre, donc oui. Ça fait plus de 25 ans qu'elle existe. Pendant ce temps-là, tout le monde était pas mal correct avec leurs objectifs, mais depuis un certain temps, depuis surtout la proximité avec l'administration Trump, les gens commencent à se demander, est-ce que finalement on est des méchants? Est-ce que ce qu'on fait est utile à la sécurité du monde? Parce que je cite là un des employés cité dans l'enquête de Wired, il dit... Le récit officiel raconté à l'interne après le 11 septembre, c'est que nous savions qu'il y aurait une forte poussée de la sécurité dans le monde, de l'importance de la sécurité, et nous craignions que cette sécurité ne porte atteinte aux libertés civiles, et nous, on voulait être sûrs, qu'il assurait que ça se fasse dans le respect de ces libertés-là. Puis là, ben, ils se disent, est-ce que la menace vient peut-être de l'intérieur? T'sais? Fait que cette enquête-là de Wired recense un peu le genre de questionnement qu'ont des employés, notamment dans les chaînes Slack à l'interne, où est-ce que les gens clavardent entre eux. Là. Et ils sentent aussi que maintenant, lorsqu'ils posent des questions, ça tombe un peu sur une sourde oreille. Ça se dit-tu, ça? Sur l'oreille sourde?
Ça tombe dans l'oreille d'un sourd.
C'est ça l'expression?
Faire sourd oreille, ça tombe dans le vide.
En tout cas, ils sont pas écoutés. Ils sont pas écoutés.
Ils crient dans le désert. C'est un peu ça aussi.
Salutations aux personnes malentendantes qui nous écoutent.
Dis que c'est un daltonien.
OK. Fait que c'est ça, là. C'est pas mal ça qu'on apprend. Sinon, t'avais-tu quelque chose à ajouter?
Je peux très bien rajouter quelque chose. Mais je pense que ce qu'on voit chez les employés de Palantir, en fait, ce qui était dans l'article de Wired, c'est qu'il y avait un canal où ils discutent d'événements courants, des actualités. Et après l'assassinat d'Alex Pretty par les forces de l'ordre américaines en janvier 2026, si je ne m'abuse, il y avait des employés de Palantir qui ont commencé à discuter de cet événement-là. Et Palantir a décidé de supprimer les messages de cette conversation sans avertir les employés à l'avance. Ils ont supprimé ces conversations-là. Et là, quand des employés ont demandé à Palantir « Pourquoi est-ce que vous supprimez les messages où est-ce qu'on discute de ça? » un employé de la cybersécurité a dit que c'était en réponse aux aux fuites de données, dans le fond. Parce que justement, ça, je pense que c'est basé, cet article est basé, je crois, sur des communications internes de la compagnie. Et moi, ça me fait penser beaucoup à je pense qu'une des images emblématiques de l'administration Trump 2.0, c'est vraiment à l'inauguration où ce qu'il y avait tout, les géants de la tech, Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, qui étaient aux premières loges de l'inauguration. Donc, on voit ce rapprochement là, entre l'administration Trump et les géants de la tech, mais on voit qu'au niveau des employés, par contre, ils partagent pas le même enthousiasme là, que les patrons de ces grosses compagnies-là. En janvier de cette année, en janvier 2026, un millier d'employés de la tech ont signé une lettre ouverte pour dénoncer les opérations de ICE dans les grandes villes américaines et pour mettre fin aux nombreux contrats des compagnies de la tech avec ICE, parce qu'on sait que les opérations de ICE sont beaucoup propulsées justement par ces technologies qu'ils acquièrent auprès de compagnies technologiques, et les employés ne sont pas nécessairement en accord avec ça.
Non, c'est sûr. Puis en plus, quand tu rajoutes à ça le fait que l'IA est en train de provoquer la suppression de postes au sein de ces entreprises, chez Meta, on vient d'annoncer des milliers de postes qui seront éventuellement abolis, bien voilà que ça va peut-être ajouter à cette grogne-là, très certainement. Là.
C'est un élément intéressant aussi de cet article-là, c'est qu'il y a, il y a une équipe de liberté civile, premièrement, chez Palantir, donc des gens qui s'occupent de cet aspect-là de leur travail.
Est-ce qu'ils travaillent de ce temps-ci?
Il semblerait qu'ils travaillent assez fort, justement, pour rassurer les employés que ce qu'ils font est bien, ou du moins de répondre à leurs questions. Et ce qu'on apprend dans l'article, c'est qu'un employé de l'équipe de liberté civile récemment a tenu une espèce de séance de questions-réponses et il aurait dit aux employés qu'un client malveillant est quasiment impossible à arrêter. Donc, si un client de Palantir se sert de leur technologie à mauvais escient ou d'une manière que l'entreprise ne voudrait pas qu'il s'en serve, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour les arrêter. Puis le seul moyen de savoir qu'ils l'ont mal utilisé, c'est de mener un audit et des procédés légaux après que leur contrat avec ce client-là est résilié. Fait qu'essentiellement, on donne la technologie aux gens, ils font ce qu'ils veulent avec, puis il y a très peu de surveillance de comment ils s'en servent.
Tout va bien, mesdames, messieurs. Un des autres éléments qui ont suscité la grogne des employés à l'interne, et c'est ce qu'on apprend encore une fois dans cet article de Wired, c'est ce bombardement en Iran d'une école, 150 morts, en majorité des écolières en bas âge de 7 à 12 ans. La technologie de Palantir aurait été employée dans la foulée de ce bombardement-là.
On ne le sait pas, en fait.
On ne le sait pas, mais c'est une information. Tu disais que c'est flou, hein, c'est ce que fait cette entreprise, mais les gens se posent des questions légitimes.
C'est ça, parce que les employés ne savent même pas comment la technologie est utilisée. Donc, ils se demandaient est-ce que notre technologie a été utilisée? Ils essayaient d'avoir des réponses à ça. Puis ce cas-là, tout semble indiquer que c'est les États-Unis qui étaient derrière.
Là, même si Tomahawk, après tout. C'est le seul pays qui les utilise.
C'est ça. Donc, c'était un des événements catalyseurs, certainement.
Fermons la parenthèse sur Palantir et Alex Karp, ou je dirais plutôt trois petits points de suspension, puisqu'il reste évidemment dans notre mire. Parlons de ce qui se passe chez nous, pourquoi pas. Plus précisément au Manitoba, puisque le premier ministre manitobain, Wab Kenyu, a annoncé donc vouloir interdire les réseaux sociaux et les agents conversationnels, les robots conversationnels aux personnes âgées de 16 ans et moins. C'est donc la première province au Canada qui franchit ce pas ou qui est en voie de franchir ce pas, surveillée de très près par d'autres provinces qui s'y intéressent, Nouvelle-Écosse, Québec, Saskatchewan, Ontario, il y a le fédéral dans tout ça. Bref, parlons du Manitoba comme tel, pas beaucoup de détails pour l'instant.
Non, absolument aucun détail en fait. Le premier ministre a juste annoncé qu'il allait faire ça lors d'un gala de financement. Il a dit que ces compagnies-là font toutes sortes de mauvaises choses aux enfants pour des mentions j'aime. Il a parlé du fait que ça enrichit des tech bros, puis c'est pas mal ça.
Il a parlé des films infinis, puis...
On n'a absolument aucune idée de comment ils l'appliqueront, de quand, de ça va être quoi l'âge. Il a juste dit « on va le faire ». Puis c'est assez intéressant pour la simple raison que c'est un gouvernement de gauche. En général, on a vu beaucoup de gouvernements de droite s'attaquer à ça jusqu'à maintenant.
Kenyu est au NPD, c'est ça, NPD provincial au Manitoba.
Oui, mais un politicien qui, somme toute, a quand même une posture assez populiste des choses. Puis moi, ce que je décèle dans son discours, c'est un discours très populiste de pourquoi on devrait bannir ces réseaux sociaux-là pour les jeunes, de la même manière que plusieurs des gouvernements qui ont déjà mis ça en place. C'est très axé sur l'aspect protection de la jeunesse, protection de nos jeunes, corruption des jeunes, puis ça semble aller vers là, mais il y a vraiment absolument aucun détail là-dessus. Puis bien sûr, il y a toutes sortes d'enjeux de sécurité liés à ça, de vie privée sur le web, de comment est-ce qu'on vérifie l'âge de ces jeunes-là, de qui s'en met plein les poches avec ces systèmes de vérification d'âge-là. Donc, ce sera à suivre.
Bien, c'est sûr qu'avec les événements Colombie-Britannique, Tumblr Ridge, les robots conversationnels étaient mêlés à tout ça, ça amène de l'eau à ce moulin-là.
La seule indication que j'ai vue, c'est qu'ils voulaient commencer cette initiative-là dans les écoles. Ce qui fait du sens parce que c'est un endroit où on peut justement interdire carrément les téléphones. Je pense qu'au Québec, on n'a plus de téléphone dans les écoles secondaires. Ça se peut-tu?
Oui, c'est exact. Là où c'est appliqué. Puis certains disent que c'est une expérience positive.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, je pense que ça prend un peu de temps avant de voir les effets de ces mesures-là. En Australie, qui était le premier pays à bannir les réseaux sociaux chez les jeunes, récemment, il y a eu un sondage mené auprès d'un peu plus d'un millier de jeunes Australiens âgés de 12 à 15 ans qui montre que 61% d'entre eux utilisent encore régulièrement les réseaux sociaux malgré le bannissement, en utilisant notamment des VPN. La plupart d'entre eux ont dit que c'était très facile de faire ça.
Il y a des tutoriels en ligne pour contourner...
Exister. Oui. Puis, je veux dire, l'expression anglaise, if there's a will, there's a way, comment on dit ça en français? S'il y a un moyen. Oui. Puis en plus, c'est des adolescents, là. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté de vouloir socialiser justement avec ses amis. Parce que pour certains observateurs, l'échec relatif, là, qu'on pourrait qualifier, là, du bannissement des réseaux sociaux chez les jeunes en Australie, montre qu'on ne devrait pas faire ça. On devrait plutôt sensibiliser les jeunes à utiliser de manière sécuritaire les réseaux sociaux. Mais il y a Jacqueline Nessie, qui est professeure de psychiatrie à l'Université Brown aux États-Unis, qui a été interrogée par le magazine Fortune et qui nuance un peu cette conclusion-là, cet avis-là, en disant « Si les défenseurs et les législateurs veulent que les interdictions des réseaux sociaux soient efficaces, ils doivent d'abord se demander pourquoi les enfants y ont recours et concevoir des mesures qui répondent à ces besoins d'autonomie, par exemple, ou d'exploration, ou de divertissement, ou de socialisation par d'autres moyens. » selon elle, il faudrait réfléchir pas juste à « il faut bannir les réseaux sociaux », mais qu'est-ce que les jeunes vont faire? Exactement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils recherchent sur les réseaux sociaux, puis qu'est-ce qu'on peut leur donner pour justement pas juste leur retirer quelque chose.
C'est ça, parce qu'il y a des besoins légitimes à travers tout ça.
Oui, absolument. Là. Donc, je pense que ça suscite des conversations très intéressantes sur justement... c'est un peu moins infantilisant aussi que de dire, tu sais, on va retirer ce que vous aimez sans
contrepartie.
C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est un peu la base aussi de la psychologie. Bien, une des bases de la psychologie de l'apprentissage, que tu peux pas juste retirer des trucs que tu aimes. Parce que après, c'est sûr que les gens vont essayer de chercher des alternatives.
Là. C'est un problème très multifacette aussi parce que je pense que l'idée de bannir ça puis de dire aux plateformes, mettez un outil pour vérifier l'âge puis ça va aller. C'est la solution, honnêtement, quasiment la plus simpliste qu'on peut appliquer parce que c'est plus facile que de dire qu'il faut que ces entreprises-là enlèvent certaines fonctionnalités de leurs applications ou qu'il faut... Tu sais, comme on parle toujours du défilement infini, par exemple, comment que c'est néfaste, supposément, pour les gens, puis qu'il y a des mécanismes psychologiques derrière ça. Bien, c'est néfaste aussi pour les adultes. Tu sais, fait que il fallait repenser le design, là, on s'entend, ça prendrait des lois comme très coercitives, puis est-ce qu'il y a moyen même de passer des lois pour ça? Est-ce qu'il pourrait avoir une concertation internationale? Tu sais, ça, c'est des solutions plus compliquées, mais qui vont plus au problème de fond que de juste dire on le bannit, puis là, comme tu le dis, Fanny, tu sais, on va avoir recours à des VPN ou n'importe quel moyen pour le contourner.
C'est ça, l'Union européenne, d'ailleurs, réfléchit au développement d'une application de vérification de l'âge qui serait commune à l'ensemble des pays qui composent l'Union européenne. On verra si ça va fonctionner.
Puis encore là, on parle d'enjeux, de vie privée à chaque fois que des choses comme ça sont soulevées. Fait qu'il y a aucune solution parfaite à ça, ça c'est certain.
Mais ce qui est certain aussi, c'est l'engouement que ce genre de mesures-là suscite. Je le disais tantôt, il y a plein de provinces qui s'y intéressent. Le gouvernement fédéral, incessamment, on envisage très sérieusement, Marc Millet disait ça, très sérieusement, entre guillemets, ce type de mesures-là.
Je mets ton chapeau d'analyste politique là, pour une seconde.
Tu mets ton chapeau.
Les sondages sont très favorables à ça. Fait que c'est certain que les gouvernements, quand ils voient que la population qui vote pour eux sont favorables, ça se peut qu'ils mettent en place ces mesures-là. Fin de l'analyse.
Pendant 8 secondes et demie, Nicolas aurait été analyste politique. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Nicolas, analyste politique.
Mais un honneur.
Autre, tu sais ça, c'est toujours un peu la même chose, Paul. À chaque fois qu'on a parlé de cet enjeu-là, c'est toujours le truc du défi de la mise en application. C'est souvent lancé en l'air comme ça, on veut faire ceci, une intention politique est évoquée. Je vous amène en Grèce. Une autre mesure qui concerne les réseaux sociaux qui a été mise de l'avant par le gouvernement grec, qui projette d'interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux. Voilà un autre enjeu connexe qui n'est pas lié à l'âge, aux limites d'âge, mais encore une fois, avant ça, sans dire comment ils vont procéder, tout ça dans le but de combattre la toxicité, disent-ils. Ils ne veulent pas nécessairement bannir l'utilisation de pseudonymes, mais garantir que chaque profil corresponde à une personne réelle.
Ouais, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui, à un certain temps, évoquait cette même idée-là au Québec. Il disait qu'il faudrait que ce soit comme une identité, un compte sur les réseaux sociaux. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas reparlé. Je ne sais pas si c'est encore dans les cartes pour le PQ, là, mm-hmm. mais il en avait parlé il y a quelques années.
Et là, toute l'Internet ressemblerait à LinkedIn, tu vois.
Ah, le rêve! Mais c'est le rêve, finalement.
On y revient. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est cette citation du ministre grec de la gouvernance numérique. C'est la première fois que je cite un ministre grec du nom de Dimitris Papastergiou qui a dit ceci. Dans la Grèce antique, tout un flex, hey hein. Quand t'es grec, tu peux le dire. Hein. Dans la Grèce antique, chacun pouvait exprimer son opinion ouvertement et nommément. Il suffisait de lever la main pour partager son point de vue. Cela devrait nous inspirer dans la construction d'une nouvelle démocratie numérique. Voilà un peu l'esprit avec lequel il compte en Grèce, donc, bannir l'anonymat sur les réseaux sociaux. On verra pour la suite. Bonne chance pour la suite. Et si on bouclait la boucle, en parlant encore une fois... on a commencé en parlant de ces théories conspirationnistes, de ces complots fantasmés en lien avec la fusillade au gala des correspondants. Nicolas, tu veux absolument nous parler d'une de ces théories-là. Assez farfelu, merci.
Ouais, est-ce que je veux absolument vous en parler?
C'est toi qui as cité!
Non, mais c'est quelque chose. Là. On sait que le suspect là, de la fusillade s'appelle Cole Allen. Donc, après les événements de samedi, qu'est-ce que les gens font? Ils vont sur X, ils font une recherche pour son nom. On essaie de voir s'il y avait un compte, on essaie de savoir c'est qui. Puis les gens aboutissent sur un compte qui avait un seul tweet en 2023 et le tweet était Cole Allen. Rien d'autre. Sa photo de profil, c'était un meme de Pépé. Pépé, la grenouille, Pépé the Frog. Et sa photo en bannière, c'était une œuvre abstraite, disons.
C'est quoi, ouais.
C'était juste une séquence de couleurs. Et donc, les gens font une recherche inversée pour l'œuvre, voient qu'elle vient d'un site, supposément qui s'appelle Time Machine, et disent, ça y est, c'est du voyage dans le temps. Ce gars-là, il savait tout. Avant que ça arrive. Mais après, il y a une autre dimension à ça.
Il y a toujours une autre dimension, Nicolas.
C'est que les gens ont dit, en regardant la peinture, on dirait la photo de Trump avec le poing levé.
Je sais pas où ils ont vu ça. Hein?
À Butler. Mais c'est pas... Je vous parle pas d'une affaire que genre 20 vues sur Twitter. Là, on parle de plus de 50 millions de vues sur Twitter. À cette théorie-là.
Fait que les gens regardaient l'œuvre en question qu'on voit ici pour ceux qui nous regardent sur YouTube et voyaient le visage de Donald Trump.
Oui, de la même manière que les gens voyaient Jésus dans leur toast.
Oui, la pareidolie, le fait de reconnaître des formes dans des images, de se dire justement... c'est ça, j'imagine que vous le voyez à l'écran, là, mais oui. Les gens disent voir l'image de Trump, le poing dans les airs, lors de la première, je crois, tentative d'assassinat contre lui, dans cette œuvre-là. Et je pense que là, on peut vraiment parler, on peut revenir à ce que je disais sur les liens que les gens font.
Ah oui, c'est clairement
parce
ça.
Parce que, ouais, faut vraiment plisser des yeux très, très, très fort pour voir quelque chose qui ressemble à cette image-là, à mon avis.
Image qui a été conçue par un artiste montréalais.
C'est ça, l'aspect cocasse de la chose. Parce que nos collègues chez CBC ont trouvé l'artiste derrière. Premièrement, l'œuvre date d'avant 2023 et ne vient pas de ce site Time Machine. Elle date de bien avant ça. Et nos collègues de l'équipe d'enquête visuelle de CBC, donc avec qui on a collaboré sur l'enquête dont on parlait la semaine dernière, là, sur les Néerlandais qui contrôlaient des pages pro séparation de l'Alberta, ben ils ont contacté l'artiste, c'est un Montréalais, Jean-Louis Rebello.
Salut Jean-Louis.
Et il confirme que non, lui-même n'est pas un voyageur dans le temps. En même temps, c'est exactement ce que dirait un voyageur dans le temps.
Ben c'est ça, mais peu importe la preuve ou la contre-preuve qu'on amène pour dire que la théorie en question ou le complot fantasmé en question est de la foutaise, les gens vont continuer à y croire quand même. Tu sais, dans l'affaire du gala des correspondants, là, il y avait quand même une meute de journalistes sur place qui ont tout de suite sorti leur téléphone pour documenter ce qui se produisait. Mais malgré toutes ces preuves amassées sur ce qui s'est produit, dans quel contexte ça s'est produit,
Il y a des journalistes qui ont été critiqués sur Twitter, d'ailleurs, parce qu'au lieu de filmer la scène, ils se filmaient eux-mêmes en train de se cacher sous les tables. Les gens sont comme, est-ce que vous pouvez nous montrer ce qui se passe?
C'était par exprès ou ils ne savaient pas comment utiliser leur...
Ah non, genre, c'était comme quelques journalistes là, qui se filmaient en mode selfie. C'est comme, je suis là, on ne sait pas ce qui se passe. Puis,
enfin, je comprends que les gens étaient
fâchés. Ouais.
Ben ouais, c'est ça. Quand tu mets le protagoniste d'une histoire, ben c'est ce qui arrive. Mais oui, c'est un événement fondamentalement tragique. Il s'agit après tout d'un acte de violence politique condamnable dans une démocratie qui se respecte. Nicolas opine du bonnet, Fanny aussi. Bon, ben, il y a unanimité autour de la table. J'espère. Merci pour ton autre participation à notre balado, chère Fanny.
Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous.
Est-ce
de
qu'on
ces
peut
sujets.
Se dire à bientôt?
Je l'espère, je l'espère.
Je l'espère aussi. Et on salue évidemment JPDM, Jean-Philippe Descaries-Mathieu, qui nous écoute peut-être en ce moment même et qui participe occasionnellement à un autre balado avec toi, Fanny, et que je vous invite à écouter, bien entendu.
On salue Jeff aussi, bonjour.
On salue Jeff, qui nous écoute probablement pas, peut-être à différé.
Peut-être.
Peut-être.
Ben, Jeff, il va sûrement l'écouter à un moment donné.
Ben oui, à un moment donné, Jeff sera de retour dans notre galaxie. Merci à Alexis qui se trouve en régie. Merci à Louis-Charles, exceptionnellement en régie. Le bon Louis-Charles, tellement soulagé que le Canadien poursuive cette série. Quoique cet épisode sera mis en ligne samedi sur YouTube.
Vendredi sur audio.
Sur audio. On verra quelle serait la destinée du Canadien à ce moment-là. Bon, je lance ça dans le cosmos. J'avais dit moi aussi Canadien en 6.
Tu l'as dit semi, là. T'as dit entendu dans le couloir.
Guillaume, j'ai dit ce Canadien en 6?
Entendu dans le couloir.
Oui, j'avais cité quelqu'un dans le couloir. OK, mais c'était pour me protéger.
Non, mais c'est bon. Mais
parce que si je me trompe, je peux dire si quelqu'un
dans le couloir. Mais je confirme qu'il est très investi, là. On a un petit groupe chat de gens qui l'écoutent dans l'équipe, là. Puis t'es celui qui est le plus actif de loin, là.
Avec mon chandail.
Avec ton chandail et ta casquette.
Exactement. Puis ouais. Je suis très superstitieux, je vous raconterai ça une autre fois. Ah, merci ouais. À tous d'avoir été là. Ben oui, Nicolas. Voyons, c'est sûr. T'es pas superstitieux, toi? Moi, je plie mon T-shirt que je portais dans la photo que je vous ai envoyée. Là. Je le plie, mais de façon maniaque. Là. Tu sais, comme certaines font sur les réseaux sociaux. Puis je le mets sur mon lit avant de partir le soir, le jour de match. Là.
Mon Dieu.
Puis je fais des petites incantations.
OK. C'est grâce à toi, dans le fond, si perdu, il gagne.
Ben, c'est sûr.
Parfait.
C'est très cartésien. Merci beaucoup, Martine, aussi. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On se retrouve pour le 102e épisode de la semaine prochaine. Jeff sera des nôtres. Et n'oubliez pas une chose essentielle, cruciale et fondamentale. Je vous aime. Allez, salut.